Tilt Show, l'émission qui vous évite de péter un câble.
Et nous voilà dans le Tilt Show, bienvenue à tous et bon dimanche. Je suis Aurore, je suis comme d'habitude venue avec mes deux acolytes, Boule.
Bonsoir à tous.
Et Tom.
Hello tout le monde.
On a de la chance encore aujourd'hui puisqu'on a un invité du local. Il s'agit de Fred qui est président du club de poker de Saint-Sauveur, le Pumba. Bonjour Fred.
Bonsoir à tous.
Boule, tu as été rendu aux demi-finales du CFEPA, donc le championnat par équipe qui a eu lieu il y a 3 semaines.
À peu près, ouais, un bon mois même à Noyon. Et du coup, j'ai pu aller voir quelques capitaines avant que les manches commencent et voir quelles étaient leurs ambitions pour la journée.
Allez, on va écouter ça. Ça ne dure pas très longtemps. Vous allez voir, on a notre reporter sur place qui a fait le tour des tables.
En direct de Noyon avec Fred pour le Tilt Show, capitaine de Saint-Sauveur, donc du Pumba qui a terminé premier lors des phases qualificatives. C'est quoi vos objectifs du coup pour cette première manche de la demi-finale ?
Bah écoute, l'objectif ça va être de prendre du plaisir parce que l'objectif est déjà atteint, hein, c'était la qualif. Donc maintenant bah, c'est que du bonus, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Hein. On se refuse à rien, donc on va essayer de faire le mieux possible quoi.
D'accord, vous avez mis des stratégies en place un peu pour la journée ?
Rien du tout. On va jouer notre poker, chacun va jouer son poker. Cette année, on n'a pas donné de consignes du tout et ça nous a plutôt bien réussi. Donc on va continuer comme ça.
Eh ben, écoute, je te remercie et puis on vous souhaite bonne chance pour cette première journée en espérant vous retrouver pour la finale dans quelques semaines.
Eh ben, avec grand plaisir. J'espère qu'on se retrouvera à cette occasion-là. Merci.
Merci à toi. Donc je suis avec Stéphane de Soissons. Est-ce que tu peux nous dire un peu du coup qu'est-ce que vous attendez de la journée de cette première manche des demi-finales des CFEPA ?
Alors tout d'abord on a hâte d'en découdre sur un format en shortened, donc avec des très grosses équipes, il y a Resson, il y a Eux, il y a Moreuil, c'est du top 20 France. Donc pour nous aujourd'hui le but c'est d'être dans la course pour dimanche prochain, accéder à la finale quoi. On sait que ça va être très compliqué, pour nous c'est la 8e sur 10, mais il va falloir jouer et le but c'est d'aller en finale, donc on va tout faire pour, et tant qu'il va avec, espérons que ça se passe pareil pour nous.
C'est clair, et est-ce que vous avez mis un peu des stratégies en place ou des choses comme ça pour la journée ?
Ah, c'est surtout
sans
de...
Dévoiler,
non, il n'y a pas de stratégie particulière, de toute façon il n'y a pas de choix que de scorer, si ça on score pas, on n'ira pas, donc à partir de là... Après, voilà, c'est un autre format, on est en shortened, donc c'est une autre variance, il y a moins de jetons en table, etc., par rapport à la structure, mais la stratégie, c'est d'aller au bout et d'être dans la course ce soir, quoi.
D'accord, du coup, là, tu as bien mobilisé tous tes joueurs, j'ai pu constater ce matin que tout le monde, à ce façon, était grave motivé. Du coup, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette journée, en espérant que ça se passe du meilleur possible pour vous,
merci.
Qu'on vous retrouve pour les finales.
Espérons, merci beaucoup.
Merci à toi. Je suis avec Guigui, capitaine de Resson, donc Resson qui a largement dominé la première phase, les premières phases de poule dans sa région. Guigui, est-ce que tu peux nous dire un peu du coup ce que vous attendez de cette journée de première manche des demi-finales de CFEPA ?
Alors bonjour, oui, donc nos objectifs pour nous, donc c'est toujours jouer les premiers rôles, c'est l'objectif que je donne à l'équipe à chaque fois. L'objectif individuel pour chaque joueur, c'est de finir minimum dans le top 2 pour cumuler un maximum de points. Et donc c'est le top 2, donc c'est d'aller chercher minimum les HU. On a l'habitude, on sait y faire. Là, c'est un nouveau format, on est en 6 max, ça change de d'habitude. Maintenant, on espère que la variance et puis nos lectures et puis notre talent sera avec nous.
On vous le souhaite. Et justement, vous êtes habitué de ce genre d'événement, de vous retrouver en demi-finale, même en finale, puisque vous avez déjà participé à la finale plusieurs fois. Est-ce que vous avez une recette magique, un secret, en fait, pour arriver là à chaque fois ?
À nous, notre recette, non. Mais après, on n'a pas une recette spéciale. On a vraiment tant quasiment la même équipe. Et chaque année, on a toujours 2-3 joueurs qui se greffent. et qu'ils arrivent à s'adapter à nous. On continue sur la même lancée. On n'a pas de recette spéciale, à part notre café le matin. C'est tout ce qu'on a comme recette. Et après, c'est le talent qui parle.
D'accord. Et ben, je te remercie beaucoup. Je vous souhaite plein de courage pour cette première journée. Que le bonheur soit avec vous et puis qu'on vous retrouve un peu plus tard dans la compétition.
Merci.
Merci à toi. Bonne journée. Je suis avec Alain, directeur de tournoi pour la première manche de la demi-finale CFPA à Noyon. Alain, est-ce que tu peux nous dire un peu du coup quel est ton rôle sur une journée comme aujourd'hui ?
Oui, bonjour. Donc le rôle du directeur de tournoi, c'est de vérifier que le règlement est bien respecté lors des étapes, puisque le poker, comme la plupart des jeux, a des règles à suivre. Donc notre rôle, puisqu'on est deux aujourd'hui, c'est de faire que ces règles soient bien suivies. Donc la fédération, depuis maintenant un peu plus d'un an, a mis en place encourage des formations de directeurs de tournoi officiels qui se déplacent pour arbitrer les tournois dans le cadre donc de cette compétition de championnat de France par équipe de poker associatif, sachant que là c'est des demi-finales, donc commence à être à un niveau relevé où c'est d'autant plus important d'avoir un bon respect des règles.
C'est sûr. Et tu nous parles de formation. Et est-ce qu'il y a des possibilités pour les gens qui voudraient rejoindre de rejoindre ce type de formation ? Comment ça se passe ? Comment on peut faire ?
Alors oui, c'est en mise en place, puisque comme je disais, ça fait un an qu'on a fait les premières. Donc la Fédération française de poker associatif fonctionne beaucoup autour d'un forum où tous les clubs sont les bienvenus. Club de la fédération comme club externe d'ailleurs. Donc dans le forum, il y a des sous-forums par région. Et il faudrait que les différents clubs organisent en interne, sachent qui est intéressé et indiquent qui est intéressé. Et à ce moment-là, on essaye de voir comment trouver une date qui convienne au plus grand monde et organiser une formation. C'est l'affaire d'une grosse demi-journée en général. Donc on est tout à fait ouvert à ça. Il faut juste effectivement que tous les clubs s'organisent pour avoir des candidats, sachant qu'idéalement, il faut être entre 10 et 20 pour faire une formation, que ça soit intéressant pour tout le monde et utile pour le plus grand nombre à l'avenir.
D'accord, et ben je t'en remercie beaucoup Alain pour toutes ces informations et je te souhaite une très bonne journée du coup pour cette demi-finale CFEPA.
Bien, merci, bonne journée à tous.
Merci Boule d'avoir été notre reporter sur place aux demi-finales des CFEPA. Peut-être que vous avez reconnu, chers auditeurs, la voix de Polak, qui s'appelait Stéphane de son vrai prénom de Soissons, qui a déjà été notre invité sur le Tilt Show. Et vous allez aussi peut-être reconnaître la voix de notre invité du jour, Fred, du coup, qui a déjà donné quelques impressions. Ça m'a fait beaucoup rire d'entendre qu'il y a plusieurs clubs qui sont venus la fleur au fusil, on n'a pas de stratégie, on boit du café et puis on voit ce qui se passe.
Faut dire, c'est aussi avant le début de la première manche, tout le monde a envie de rester aussi un peu caché, de pas dévoiler toutes ses ambitions aux
Est-ce
yeux
qu'on
des
doit
autres.
Les croire
c'est vrai ça.
Est-ce qu'on doit les croire ?
Fred, tu vas nous dire l'envers du décor maintenant. La manche est passée.
Ah, c'est des joueurs de poker, hein. Faut pas les croire. Hein.
C'est pas faux. Du coup, félicitations au Pumba, puisque vous avez été qualifié pendant cette demi-finale.
Oui, bah merci. On a fait une manche moyenne à Noyon. On termine quatrième à 11 points du deuxième. Et puis, on a tout donné à Moreuil. On a arraché la deuxième place. Voilà.
C'est beau.
Du coup, on rappelle que le deuxième qualifié avec le Pumba, c'est eux. On en avait parlé il y a 15 jours déjà dans l'émission un petit peu.
Avec
Donc voilà, ce sera les deux clubs qui représenteront les Hauts-de-France pour la finale au mois de septembre ou au mois d'octobre, selon comment elle sera fixée.
On aura donc l'occasion d'en reparler. Et j'espère qu'on pourra te réinviter en tant que grand finaliste.
Ah bah avec plaisir. Hein.
En tant que champion de France.
Ça serait encore
vainqueur, ça serait encore mieux.
J'osais pas le dire, je veux pas porter la poisse.
On verra. On se refuse à rien, encore une fois.
Est-ce que tu sais déjà avec quelle équipe tu vas y aller ?
Ce qui nous arrête pour l'instant, c'est la date, quoi.
Eh oui.
Tant qu'on n'a pas la date exacte pour s'organiser, c'est un petit peu compliqué. On attend ça pour aligner la meilleure équipe possible.
La tête du Pumba seront là?
Ah bah, je pense qu'on fera tout pour y être. Hein. De toute façon, c'est quelque chose qu'on vit peut-être qu'une fois. Donc,
c'est la première fois pour le club que vous êtes qualifié?
Ouais, tout à fait. Bah, on n'a que 4 ans d'existence. Hein, donc,
C'est encore tout frais.
C'est tout neuf.
C'est donc, un club tout neuf.
Oui.
C'est beau, du coup, pour un club qui n'a que 4 ans, d'être qualifié parmi les 16 meilleurs clubs de France.
Ouais, c'est une belle perf. L'objectif au début de la saison, c'était de sortir dans les 3 premiers de la poule. On a réussi à sortir premier. Donc, et de belle manière, je pense. Hein, on finit premier avec un petit peu d'avance. Et puis voilà, quoi. Après, ça s'est confirmé en demi-finale. Donc, on verra. Hein. Je pense que, à chaque fois, le niveau. Le niveau augmente, donc à nous d'essayer de jouer notre meilleur poker pour arriver à nos fins, quoi.
Eh oui, et la fin, c'est le champion, le titre de champion, le titre honorifique, comme on disait.
Pu suivre un peu aussi vos résultats tout au long de la saison, et vous allez représenter l'Hauts de France pour la finale du coup CFEPA, qui se déroulera certainement au mois de septembre, on l'a déjà dit. Qu'est-ce que vous attendez de la finale et quels sont vos objectifs sur cette finale?
On attend de prendre du plaisir avant tout. L'objectif, ça va être d'aller chercher la meilleure place possible. Hein.
Le titre, Fred.
Vous êtes là pour représenter tout le Hauts-de-France, l'oubliez pas.
De toute façon, on ne joue pas pour perdre. Hein, donc oui, on donnera tout. On essaiera de faire au mieux, quoi.
Et la stratégie en général en CFEPA, on a toujours, enfin moi vu de l'extérieur, parce que j'en ai jamais fait, j'ai jamais fait partie d'une équipe d'un club, on a toujours l'impression qu'il n'y a que des serrures à table et que si on n'a pas As-Roi ou les As, on ne peut pas envoyer. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Non, dans l'équipe, j'ai un panel de joueurs qui pratiquent un poker différent et c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer une stratégie globale parce que chaque joueur joue différemment et du coup... Je peux pas dire la même chose à tout le monde, quoi. C'est pas possible. Donc, chacun joue son poker et essaye de le jouer de la meilleure façon.
C'est en gardant les individualités finalement que vous arrivez à faire.
Exactement, tout en gardant l'esprit que c'est quand même une compétition par équipe et que on joue aussi pour les autres, quoi.
Ça joue beaucoup.
Toujours,
hein.
Les valeurs d'équipe, de jouer pour les autres, quoi, qui reviennent dans toutes les interviews qu'on a pu faire, tous ceux qui jouent les compétitions par équipe, c'est toujours la valeur première qui ressort, c'est vraiment jouer pour les autres, jouer pour le club et pas forcément jouer pour soi-même, quoi.
L'esprit d'équipe, ça change beaucoup la façon de jouer. Par exemple, toi, tu joues en CFEPA, quand tu joues en individuel, tu joues pareil ou tu joues différemment?
Non, je joue complètement différemment. En plus, moi, c'est pas les mêmes formats de jeu. Hein. Là, on est sur des sit and go. En tournoi, je joue pas du tout la même façon. Il faut savoir s'adapter aussi aux joueurs que tu rencontres sur les différentes tables. Donc, on apprend à connaître les joueurs qu'on a en face et après on s'adapte et on essaye d'appliquer la meilleure façon de jouer, quoi.
Oui, parce que finalement sur toute la saison, c'est des joueurs que tu vas retrouver. Alors, Tom, t'as joué aussi toi en CFEPA et tu joues en individuel, tu es d'accord avec Fred, tu joues différemment?
Ouais, il y a des décisions que tu prends pour l'équipe, je pense, des fois. Ouais. Après, jouer différemment, je suis pas sûr. Mais il y a quelques décisions, ouais, où tu penses à l'équipe, ouais, quand même.
Le but, je pense, c'est pas de jouer différemment de ton jeu. Il faut conserver l'essence de ton jeu. Par contre, en effet, il y a certaines décisions qui peuvent être prises en conséquence de l'équipe. Des pots où tu aurais été amené à payer si tu avais joué pour toi. Tu peux être amené à folder quand tu joues en équipe. Pour le club, pour l'équipe, justement, quoi.
Pour aller plus loin, pour attendre que quelqu'un d'autre saute à ta place, ou des choses comme ça.
Le toujours plus, comme tu dis à chaque fois.
Le toujours plus. Ça fait 4 ans, du coup, Fren, que le Pumba existe. C'est toi qui l'as créé?
Ouais, on a créé ça. Il y avait un petit noyau de joueurs qui souhaitaient se réunir et jouer, donc... On a monté l'assaut et puis c'est parti comme ça tout doucement. La première année, on était une petite vingtaine de joueurs. Et puis là, on est arrivé à 27 adhérents. Voilà, ça permet de faire des beaux tournois le lundi soir. Voilà.
Du coup, voilà, tu viens de le dire, vous vous réunissez tous les lundis soirs, c'est ça ?
Alors, trois lundis par mois, on joue deux MTT et un sit and go.
Deux MTT dans la même soirée ?
Non, deux MTT dans le mois et un sit and go qui a la même formule qu'en CFEPA.
La même structure ?
Même structure, même tout pareil.
Et donc l'équipe est entraînée déjà à jouer
voilà,
comme
dans
ça aussi.
Ça a pour but d'entraîner l'équipe. Ouais.
Et deux par mois qui servent de MTT sur l'année du coup ?
Sur l'année et qui servent de base pour la qualification
CFIPA. Justement, tu parles du CFIPA. Toi, tu as une expérience un peu particulière avec le CFIPA il y a 2 ans à Annecy.
Ouais, on rappelle que ça se joue en ce moment à Aix-en-Provence.
C'est aujourd'hui la finale, le D2. Et du coup, toi, tu étais déjà présent. Bah, j'ai pu te croiser à Annecy, j'ai pu te croiser au Havre aussi l'année dernière. Mais surtout, on va parler d'Annecy. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience ? Parce que tu as fini 4e du coup au CFIPA.
Ouais.
4e au niveau français, c'est quand même une grosse perf, donc raconte-nous un peu ton expérience.
Je me suis donné comme objectif au départ de passer le D1. Ça s'est passé de justesse.
Ça a été compliqué, même, je me souviens t'avoir vu à la fin du D1.
C'était
un peu chaud.
Et puis, au début du D2, je me suis dit, bon, bah, maintenant qu'on est là, on ne va pas repartir tout de suite. T'as pas un train dans l'immédiat. Donc, on a gratté, on a tenu. Beaucoup de patience, de rigueur. Et puis après, les bonnes rencontres au bon moment, avec les bonnes cartes. Et puis, pas de bad bid. Donc,
ça, c'est beau, ça.
Le plus important, c'est dans la journée, c'est pas prendre de mauvais coups.
Pas de déchatte, comme dirait Tom.
C'est ça.
Et puis voilà, quoi. Après, une TF. Alors là, c'était inespéré.
Et c'était des deux toujours ? C'était des trois, du coup là ?
Non, c'était tout
sur
le...
Des deux, la TF. Ouais.
Il y a deux D1. Pour, en fait, ils font jouer le premier D1, les gens, les clubs les plus proches du casino en général. D'accord. Le deuxième D1, les gens qui viennent de plus loin, pour leur laisser une journée de plus pour pouvoir faire la route et se rapprocher du tournoi. Et donc, le dimanche, le D2, comme aujourd'hui, en fait, ça se déroule.
Non, c'est en
D3 aujourd'hui, pardon, excusez-moi.
C'est 3D.
C'est D3. Mais avant,
c'était D2 le samedi et D3, la table finale.
Là, ils ont réussi à caler sur un grand week-end, mais d'habitude, c'était sur des week-ends de 3 jours. Et du coup, ils étaient obligés vraiment de caler ça.
Sur le week-end de l'Ascension. Ok, donc du coup, TF en D2, fin de D2.
Voilà, et puis une 4e place.
Durement gagnée ou en TF comment ça se fait ? T'as attendu que les autres meurent ou t'as pris
Non,
risques,
non, bah, j'ai pas pris. Je pense que j'ai pas pris assez de risques à certains moments.
Un petit regret là-dessus.
La pression aussi, la table était filmée, et on pouvait tous le suivre, on était tous derrière lui.
Ah, je me suis fait griller parce que tu m'envoyais des SMS.
Ah oui, petite anecdote, en fait, je lui envoie un SMS pour lui dire qu'il est beau et qu'il passe bien à la télé. Il rigole au moment où il envoie mon SMS et le directeur tournoi arrive et enlève les téléphones de tout le monde à la table.
Au revoir.
Chose qui doit être faite avant.
Normalement, mais du coup, ils se sont aperçus rapidement qu'ils avaient fait...
Parce que dans n'importe quel casino, quand tu rentres en TF, ils t'enlèvent les téléphones. Hein. Que ce soit à Saint-Amand, partout.
Alors maintenant, je pense que
c'est obligé. En TF, t'as interdiction.
Mais là, comme ça reste un tournoi, comme ça... de club, du coup.
Oui, c'est associatif.
Et c'est moins officiel qu'un vrai tournoi de casino, entre guillemets. Même si ça reste officiel.
Bah, du coup, ça fait une belle expérience, cette 4e place il y a 2 ans. Du coup, tu crées un club pour être premier de ton club et puis partir et faire une TF.
Recrute que des nuls.
J'ai pas fait exprès.
J'ai bien joué.
Il est obligé de créer son club, il n'y arrivait pas avant.
D'ailleurs, le niveau était trop haut. Parce qu'avant, j'ai commencé le poker il y a quelques années à Chevrières, au PCO.
Ah. Ouais. Du coup, désolé, j'étais obligé de lui piquer sa place tous les ans. Je ne pouvais pas y aller.
Ça pourrait être compliqué.
Tout ça pour rien, parce que toi, tu n'as jamais rien fait.
Non, malheureusement, ce tournoi, ça restera ma bête noire. Quoi. C'est là où j'ai pris mes pires horreurs en live. Et c'est comme ça.
Puis, un jour, quand il y a des bons joueurs à Chevrières, tu n'arrives plus à aller au championnat de France, on m'a dit, moi. Hein.
Ouais. On en reparlera l'année prochaine.
C'est bien, tu rempiles à chaque fois.
Ouais, les conquérants.
Chaque année d'une nouvelle année. Hein.
Après, on a le droit d'avoir des années sans et des passages à vide aussi. Ça ouais. arrive dans le poker.
C'est bien d'avoir des objectifs.
Des bad runs. Mais on reviendra l'année prochaine, t'inquiète pas.
I'll be back. Eh ben, on souhaite le meilleur à ceux qui sont en TF actuellement, en tout cas, puisque les championnats de France sont en cours.
Ouais, on n'est pas encore à la TF, mais on va pas tarder à y arriver, je pense.
Ah ouais?
Si, si, on est dimanche, on est en TF.
Il n'y a que la TF qui sera là le dimanche.
17h. Hein.
Ouais, dimanche, 17h, ouais.
Ça doit finir à 19h d'après Gabi, 18h, je crois. Le tournoi est prévu pour fin 18h, je crois.
Ah ouais, bah du coup.
Donc on est même.
Donc, ouais,
on est même en arrière.
On n'est pas exactement dans la salle du tournoi. Du coup, on ne sait pas exactement ce qui se passe à ce moment même. Mais on ne doit pas être loin de la fin, du coup.
Ah, intéressant. On va regarder ça en sortant du studio.
On va y courir.
Fred, il y a quelque chose que tu as envie de nous dire sur Saint-Sauveur, comment vous recrutez, comment est l'ambiance
Bon, y a pas de, c'est surtout du bouche à oreille. Hein. Les gens viennent essayer un lundi, si ça leur plaît, bah, ils restent, si ça leur plaît pas, bah, ils repartent. Non, l'ambiance est bonne, on rigole bien, c'est assez familial, hein. C'est convivial et familial.
Beaucoup de gens du coin, vraiment.
Ouais. Bon, y a même des gens qui font de la route, hein. Mais ouais, principalement et même du village, étonnamment. On a une, ouais, je vais presque 15, pas loin de 15 personnes qui sont issues du village même. Donc,
ouais, donc la moitié.
C'est beaucoup. Quasiment, ouais, la moitié. Ouais.
Vous avez créé des vocations, des joueurs qui jouaient pas avant et qui, depuis que vous avez créé la sauce à Saint-Sauveur, viennent jouer chez vous.
Tout à fait. Ils jouent parce que on leur a proposé cette animation et du coup ils s'y sont mis. Et c'est bien parce que ça permet à des joueurs
novices de progresser.
Voilà, de voir autre chose, de rencontrer des profils différents et donc qu'il y ait des nouveaux tous les ans, c'est intéressant et nécessaire, je pense.
Et parmi les fidèles qui sont là depuis le début, j'imagine qu'il y en a encore qui sont là depuis le début.
Ah bah, il y en a beaucoup, oui.
T'as vu des évolutions aussi dans le jeu, dans les...
Ouais.
Dans le bon sens, j'entends.
Ouais. Des fois dans le mauvais aussi. Mais oui, non, principalement, ouais. On essaye d'être pédagogue au maximum. Alors, il faut que la personne en face soit...
Oh là là, c'est très dur, ça.
Soit réceptif. Mais bon, en général, elle l'est. Et puis, voilà, quoi, on essaie d'être de bons conseils, on va dire.
Ça fait partie des clubs un peu comme Soissons qui essaient vraiment de faire progresser leurs joueurs et de les tirer vers le haut. Déjà, quand on voit l'organisation que vous avez avec ce tournoi mensuel spécial CDC, enfin, ce Sit & Go spécial CDC, on sent que du coup, il y a une émulation aussi, enfin, CFEPA.
Ça permet aux joueurs qui n'ont jamais pratiqué le CDC de pas se sentir perdu une fois arrivé sur place, quoi. La structure est identique, tout est identique, donc y a que les joueurs qui changent. Et...
Oui, ils la connaissent déjà, et ils savent comment jouer.
Voilà, ils savent qu'à tel moment, ça commence à devenir critique si t'as tant de bébés, etc. etc. quoi.
Et toi, ça t'aide à recruter aussi, pour ton équipe
le fait de...
Sélectionner, pas recruter.
Si, bien sûr.
On débauche.
Le classement qui est établi à l'issue de ces Sit & Go servent aussi de base pour emmener des joueurs. Hein.
Tu disais que l'année dernière, c'était toi le capitaine. Là, on a entendu dans l'interview de Boule sur place que t'étais capitaine encore cette année. Mais tu me disais en off que t'étais co-capitaine, en fait, puisque t'es en train de passer le flambeau, ou c'était juste quelqu'un qui était curieux de...
Non, en fait, il y a des gens qui sont intéressés par le rôle, donc... On essaye de préparer la suite. Et puis, en tant que président de l'asso, j'ai déjà pas mal d'activités. Donc, quand on peut déléguer, c'est bien aussi. Quoi.
Du coup, ça permet de faire une formation douce, en binôme avec toi, en autonomie complète.
C'est ça, ouais, c'est le but. On discute. Puis, c'est bien d'avoir aussi un avis, un autre avis sur qui emmener. parce que des fois on peut se tromper, hein, on peut voir les choses différemment, donc c'est bien d'échanger.
C'est toujours sympa d'être en binôme.
Tout à fait.
Au moins en binôme, moi je suis en trinôme avec vous deux là.
Ma pauvre.
Je m'en sors, mais... Non mais c'est important d'avoir un retour. Merci beaucoup Fred de nous avoir expliqué tout ça sur ton expérience CFIPA, sur ton expérience CFEPA. On vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. On sera derrière vous en septembre pour la finale, hein, clairement. Vous êtes le club le plus proche de Compiègne et celui qui va représenter les Hauts-de-France, mais surtout l'aglo, hein, j'ai envie de dire.
L'Oise.
L'Oise, oui, voilà. L'Oise. Donc, voilà. On est derrière vous.
Eh ben merci, on va
derrière le Pumba.
On va essayer de faire au mieux.
Dit comme ça, c'est un peu bizarre parce que Pumba dans le Roi Lion, t'as pas trop envie d'être derrière lui, quoi, tu vois.
Bah, faut mieux être derrière que devant, non ?
Ouais, Timon, il est bien derrière lui.
Il est sur lui souvent. On sera sur votre dos, on sera comme Timon. Allez, on passe à la rubrique suivante. Les clés du poker ball a des choses à nous raconter. Du poker. Dans les clés du poker, toujours sur le tilt show et graphite, Bull va nous poser des petites colles, il me semble.
Ouais. Aujourd'hui, on va parler on va faire un peu de vocabulaire en fait sur le poker, tout simplement.
Rabbit hunting, je sais ce que c'est.
Ah, je me rappelle ce que c'est du coup.
Est-ce que Fred le sait, ce que c'est le rabbit hunting?
Le rabbit hunting,
Fred. Est-ce qu'il nous suit?
C'était la colle d'il y a deux semaines.
Je l'ai écouté, ouais.
Il m'a dit qu'il avait écouté. Donc
je l'ai écouté, savoir. Je l'ai écouté. C'est le fait de regarder les cartes.
C'est de demander à dévoiler,
à dévoiler les cartes.
Dévoiler les cartes qui ne seraient pas tombées. Hein.
J'ai bien écouté.
Cool. Ouais. Bravo.
Continuer. Et du coup, ce soir, on va faire deux petits mots ensemble, deux petits termes de poker. Le premier, on va parler de l'angle shooting.
Angle shooting? Alors, shooting comme tirer,
par exemple.
Ok.
Et l'angle comme le rapporteur.
C'est ça. Non, voilà. Du coup, je l'ai pas.
Moi, vous me parlez technique, hein, pas.
Hein? Ben justement, là, on parle technique.
Terme technique.
Fred, une idée?
T'es dans l'angle de tir?
Non, en fait, ça s'entend de toutes les pratiques qui ne respectent pas l'éthique du jeu et les principes du fair play, mais sans obligatoirement contrevenir à une règle du jeu. Par exemple, simuler une mise avec ses jetons.
Ah oui, quand
c'est
on veut avancer notre pile, on est en fait...
Exactement.
Un aurore.
Miser volontairement avant son tour aussi.
Ah,
ça peut être une sorte d'angle shooting. Miser volontairement avant son tour, puisque tu m'écoutes pas.
C'est à cause de Tom, il me distrait.
Et on a aussi se prêter à des annonces ambiguës ou se tromper volontairement au moment d'annoncer un jeu.
D'accord.
À la fin, on dit oh, j'ai couleur. Ah, bah non, en fait, j'avais un cœur, un carreau. Bon, bah, ça marche moins bien, quoi.
Deux rouges, ça marche pas?
Non, deux rouges.
Ah, moi, on m'a appris deux rouges, ça marche.
Ok, c'est pour ça que tu gagnes beaucoup au poker.
Oui.
Je comprends mieux.
Ah, bah, je sais pas avec qui tu joues, mais.
Bon, bah, je vais revenir à mes bases. Alors.
Je comprends mieux, du coup, voilà.
Ah, mais ça m'est déjà arrivé en tournoi qu'un joueur annonce full. Et moi, j'avais le full. Et j'ai, en fait, le réflexe, c'est, ben, j'aurais peut-être pu folder si j'avais pas eu du coup
le
tirage max. Et du coup, je l'ai regardé en deux fois. Je dis, ben non, en fait, moi j'ai full et lui a foldé et il a commencé à prendre les jetons. Je me suis dit, mais ouais, t'en es où là? Et ça va, tous les joueurs sur la table ont vu, on dit, mais t'as pas montré tes cartes en fait, donc voilà, le pot.
Ouais, l'annonce suffit pas à gagner les jetons, quoi.
C'est ça. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé un jour qui faisait ça, qui annonce un truc et puis qui fold et qui prend les jetons. Genre, bah en fait, non, j'ai pas foldé, donc.
Ah voilà, c'est de l'angle shooting, du coup. Oh. Tu seras la prochaine fois, tu pourras te la péter un peu à la table et dire, je connais des termes, je connais des termes intéressants. Et le deuxième, on va prendre un terme qui est un peu plus connu des joueurs de poker, c'est le gamble.
Ok, un gamble pour moi ça veut dire juste miser.
Littéralement, ça veut dire parier, c'est ça.
Ouais, ouais, parier, ouais.
Mais sinon, le gamble dans le poker, ouais. La traduction du poker. Tom, là tu devrais connaître par contre. Non?
Ah, tu l'as séché.
Non plus.
Non plus.
Pour une fois qu'il se tête.
Gamble, si, c'est jouer, c'est jouer tout le temps.
En fait, gamble, c'est partir très facilement à tapis, sans trop savoir les chances qu'on a de gagner. C'est une manière d'agir qui a une très forte variance et qui est fortement déconseillée quand même.
Ah, on en a des joueurs comme ça.
Ah non.
Il y en a quelques-uns.
Oui. Moi, je pars souvent au tapis, mais je sais pourquoi.
Et aux USA, justement, quand vous étiez aux USA, à Vegas ou des choses comme ça, vous n'avez jamais entendu ça. C'est justement un terme très américain. Les Américains l'utilisent beaucoup quand ils partent un peu avec une main très faible. Justement, avant d'envoyer leur jeton, c'est gamble ou quoi.
C'est... Non, c'est nice hand.
Non, ça, nice c'est quand la main est terminée.
Mais... Ah non, c'est good luck, nice hand, allez, c'est parti.
Ok. Même ah ouais, non, c'est un terme, c'est peut-être moi qui suis trop ancien, encore une fois, mais c'est un terme qui était beaucoup, beaucoup utilisé, beaucoup employé par les Américains, en tout cas.
Va-t-il revenir dans nos années à nous?
Un jour, peut-être. Un jour, peut-être.
Ok, donc ça se dit d'un joueur qui envoie souvent avec pas grand-chose, quoi.
Voilà, qui part sans savoir les chances qu'il a de gagner, surtout, et du coup, souvent avec des jeux faibles.
Ok.
Un petit 7 et 2, ça peut être un beau gamble, quoi.
Ah, tu m'étonnes. Bon, on va voir ce que la main parfaite nous réserve, si certains d'entre vous vont gamble ou pas.
La main parfaite du Tilt Show.
Dans la main parfaite aujourd'hui, je vous propose une main qui est en fait la main fétiche de Boule.
Trop bien.
Ouais.
Nous sommes en sit and go. On va se mettre en position de sit and go. La moyenne stack des joueurs, c'est environ 12 bébés, donc on est tous un peu
short.
Hein. Et on est dealer avec Roi 9. Off, désolé, c'est off.
Oh, c'est off, j'aime bien.
Mais on a la position.
Un beau roi de cœur, neuf de pique, c'est parfait.
L'UTG fait 2x. Voilà, ça fold jusqu'à nous. Qu'est-ce que vous faites?
Bah, continuons dans cette... continuons, foldons.
Tom, tu fold, ok.
C'est pas notre bagarre.
Tu fold. Fred?
Ouais, pareil, hein. Fold.
Oh, moi, je vais faire un petit call, moi. Je ne vais pas folder là-dessus. Bien sûr, c'est ma fétiche. Et puis, une petite hauteur roi, ça se respecte.
Un call. Moi aussi, j'aurais call avec un roi 9 en dealer. Moi, je me dis pourquoi pas.
On est énorme.
Roi 9, ça perd pas.
En revenant au jeu, ouais, c'est, le call est peut-être un peu loose. Hein. Peut-être le 3 bête là-dessus, quand même, au bouton.
Ah, toujours plus.
Bah non, mais si on veut vraiment la jouer, je pense que le 3 bête au bouton est plus... est plus intéressant qu'un call, en fait.
Pourquoi? Tu peux juste faire un call et, et justement aller voir un coup qui ne te coûte pas trop cher, aller voir un flop pas trop cher.
Si
et voir
si la roi disparaît, que tu touches ton roi, tu ne sais plus où t'en es, en fait. Du coup, autant savoir après flop.
Il y a des moyens de le savoir après, je pense.
Après, on est un peu short. Est-ce que tu as envie de 3 bêtes à un roi 9 alors que ton stack est un peu short, tu vois?
C'est ça. Non, je pense que tu peux aller voir un petit flop pas trop cher. Et
ne jamais jouer la main des autres. Foldons.
Mais il se trouve que la small blind et la big blind fold aussi, donc on est vraiment en heads up avec, avec l'UTG.
En position en plus.
Et c'est en position. Mal. Donc en vrai, bah c'est la position qui fait coller aussi. Je pense que si je suis ailleurs dans le coup, UTG plus 1 ou plus 2, je colle pas. En tant que dealer, tu vois.
Moi je colle, même UTG plus 1 ou plus 2. Ouais, bah vous dites que je suis serré d'habitude, mais là c'est ma fétiche, c'est différent.
Voilà. Très bien. Eh bien, le flop tombe. On a un roi de pique, un 6 de cœur et un 4. Un 4 de autre chose. Carreau.
Pas mal.
Allez, t'avais le choix entre trèfle ou carreau, de toute façon. C'était...
C'est rainbow. Donc, on a notre top pair roi. Et du coup, bah, Tom, lui, il a foldé, mais sinon, il ne saurait pas où il est dans le coup, vu qu'on n'a que roi 9.
Il est vite perdu, en fait, j'ai l'impression.
Non, mais tu peux avoir beaucoup de rois meilleurs, en fait. En
c'est, vrai, c'est vrai, tu peux avoir des rois
surtout
meilleurs.
Surtout en tant qu'UTG, je pense qu'il a un roi meilleur que moi, en fait.
Ouais, ou il a As-Dame, As-Valet, une paire servie.
Bien sûr.
Il peut, enfin, sa range en tant qu'UTG avec
sûr,
le Zix.
Il y a des rois au-dessus de toi, mais il y a quand même beaucoup de jeux aussi qui sont en dessous à ce moment-là, je pense.
Ouais, il y a des rois au-dessus de moi, surtout. Moi, je vois ça comme ça, hein.
Ils sont tous au-dessus, vu que t'as foldé, de toute façon.
Oui. Aujourd'hui, on inverse les rôles, c'est lui la serrure.
C'est dingue, hein.
Non,
c'est
il joue stratégique, lui. Ils comprennent pas encore, mes auditeurs.
L'UTG, il fait 1.3 bébé. Donc, il ouvre. Que faites-vous? T'as quand même le droit de dire Fred, même si t'as foldé.
Bah, à ce moment-là, je pense qu'à minima, je colle. Hein.
Maintenant que t'as la top pair.
Ouais, voire je relance, comme ça, je sais où je suis.
Donc si
voir
on
une
colle,
relance, ok.
On a déjà perdu 3 blindes sur 12 blindes. Donc on a déjà joué un tiers de notre tapis sans savoir où on est encore, dans le pot, en fait. C'est ça qui est inquiétant, quand même.
Bah, c'est peut-être pour ça que le move de Fred de relancer...
Oui, qui est relancé, à mon avis. Et, ouais, mais pareil, si on tombe sur un roi meilleur, on perd beaucoup... Beaucoup, en fait.
Ah, tu peux être dehors.
Ben, là, moi, je pense que c'est là où je vais lui poser une question. Et c'est là où je vais savoir si je vais prendre le pot ou si je vais le perdre. Soit j'aurais perdu la moitié de mon tapis, je vais le relancer à 3 bébés.
OK.
Donc, ça va faire... Il aura 1,7 bébés pour me suivre. Moi, j'aurais investi la moitié de mon tapis. Je peux encore trouver un fold à ce moment-là s'il me revient dessus à tapis.
OK. Il se trouve que, bon, dans le coup, on a just call.
Eh ben, just callons, alors. Allons-y.
Just callons. Et comme on a just call, eh ben...
On voit la turn. C'est pas mal, hein.
C'est dingue, hein.
Ouais.
C'est fou, le poker. Dès qu'on mise un peu, hop, ça y est, on voit des cartes. 9 de pique. Donc, c'est donc le deuxième pique qui tombe. Nous, on n'a pas de pique. Je précise quand même. 9 de pique. Et l'UTG, check.
Ah, le move préféré de Roi.
All-in pour moi.
All-in pour toi.
Bah oui, bah c'est bon, maintenant je suis, j'ai gagné.
Pareil, hein. Faut arrêter le coup. En plus, les deux piques deviennent dangereux. Donc, puis vu ce qui reste derrière, on en voit.
Moi, maintenant qu'on est resté, qu'on a mis que 3 bébés finalement dans le pot.
Ça fait 5 au total.
Non, on en a mis 2 au départ et 1,3 derrière. Donc on a mis 3,3 pour le moment dans le pot.
Ah, j'ai cru que tu relançais à 3.
Non, moi, là-dessus, ça va être un check.
Ah ouais, tu check back.
Ouais.
Okay.
Au pire, value le roi, peut-être river, selon ce qui va tomber. Je fais attention aussi au pic. Le 9, il peut faire rentrer toutes les quintes avec les dames valets, les rainbow, dames 10, tous ces jeux-là. Donc je fais attention quand même.
Toi, tu fais attention en checkant.
On fait attention.
Okay, alors moi, j'ai fait attention, mais plutôt dans l'idée de Fred et Tom, j'ai pas envoyé all-in, mais je lui ai mis un gros barrel, je lui ai mis 5 bébés. Donc là, un peu plus que la moitié du pot.
Presque 4 bébés derrière.
Ouais, pas grand-chose, ouais. On est d'accord. C'est ouais. Juste pour dire, je suis pas dead, mais je lui mets un gros barrel. En mode, je suis quand même sérieuse, tu vois, mais je te mets pas tout.
Mais là, tu te mets commit quand même dans le pot s'il te revient dessus.
Et bien justement, il me revient dessus.
Ah, là tu peux plus folder dans ces cas-là.
Absolument. Ça revient. Mais en vrai, quand tu fais ça, t'es prêt à envoyer le reste. Parce que si. Enfin, tu vois. Là, les moves, c'était faire all-in.
Soit t'as fait une très très grosse erreur et que t'as pas fait attention à tes jetons. Soit en effet, t'es prêt à tout envoyer. C'est, enfin, tu lui annonces en tout cas que tu vas tout envoyer. Quoi.
C'est ça.
Votre grosse erreur après flop, surtout.
Monsieur, je sais tout, là. Donc forcément, bah on y va. Hein. Enfin, du coup, all-in payé. C'est un. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a déjà ou pas?
Ah bah c'est intéressant, oui, quand même.
Allez, dis-nous ce qui tombe avant. On essaye de deviner ce qu'il a.
C'est le 8 de pique qui va tomber avant. Donc c'est le 3e pique qui tombe.
Oh. 8 de pique, ouais, qui fait pas rentrer grand-chose, du coup, qui fait pas rentrer.
Donc on a un roi, un 6, un 4, un 9 et un 8.
Il fait rentrer des piques, mais du coup, il aurait été chercher runner, ses piques. Ça aurait été chercher loin dès le départ. Je pense pas qu'il l'aurait joué comme ça. Du coup, là, je pense qu'on a la meilleure main et qu'en effet, on va gagner le pot.
Moi, je dis brelan pour monsieur.
Il se trouve qu'on a la meilleure main, puisqu'il a dame 10 à trèfle. Il est en pompe pas totale.
Il allait chercher sa quinte en ventrale. C'était une possibilité. Ouais.
Fallait un valet.
Il a essayé de représenter le roi au flop. Il a vu que ça n'a pas marché. Il a gardé le lead. En fait, il avait pris le lead pré-flop. Il a conservé le lead au flop. Il a essayé de. Voilà, il a vu que ça n'a pas marché. Il check, mais justement, c'est ce que je te disais. C'est en faisant un check tout à l'heure, moi, je contrôle justement ces mains-là, dame 10, dame valet, les quintes qui peuvent arriver en ventrale.
Et bien voilà, c'était exactement ça. Donc on gagne le coup. Il faut savoir que cette main, je l'ai fait sur un outil qui s'appelle GTO Wizard, que tous les joueurs de poker peuvent utiliser gratuitement pour s'entraîner.
Très bonne application.
Moi, je ne l'avais quasiment jamais utilisé. J'avais fait 3-4 mains avant ça. Comme ils m'ont proposé Roi-9, je me suis dit, tiens, c'est sympa, Je vais proposer cette main pour la main parfaite.
La meilleure des mains qui puisse exister.
Et en fait, j'ai gagné le coup, mais j'étais au Wizard, m'a dit que j'ai fait le wrong move, que c'était pas ce qu'il fallait jouer.
Ah, je pense que le wrong move, c'est surtout de faire 5 bébés alors qu'il t'en reste 4 derrière. Il a pas dû aimer le logiciel, à mon avis.
J'étais haut sur le préflop.
Soit tu partais fold. Tapis. Ouais.
Ouais. Le wrong move, c'était juste de jouer ce coup, en fait. Il me proposait carrément de mettre all-in ou de folder préflop.
C'est ça, en fait, parce que...
Donc, le 3-bet, du coup, en 3-bet all-in, ou alors le fold. Le
call, là, je la joue parce que c'est ma fétiche, mais si on parle vraiment purement poker, en effet, roi 9, je pense que c'est un fold tout de suite. Bah,
c'est soit un fold, ou soit tu rentres tout de suite en 3-bet et tu vois vraiment ce qu'il
y a en face. En semi-bluff, quoi.
Et il a quoi en face ?
Dame 10.
Donc Dame 10, pareiller, le 3-bet préflop, tu gagnes le coup en fait.
Ouais, mais est-ce que tu as vraiment envie de faire un 3-bet sur un tiers de ton stack?
Tout dépend le profil en face en fait. Tout dépend le profil en face.
C'est sûr. Parce que là, on a encore des paramètres supplémentaires qui peuvent rentrer.
Roi 9 au bouton sur un profil, moi je suis capable de le faire, le all-in. Mais ça
c'est pas une référence du coup.
Bon, ça va. Non, mais voilà, faut bien examiner le profil du joueur. Mais le 3-bet all-in est complètement possible aussi. Hein.
En tout cas, c'est intéressant cette appli parce que ça permet de quand même jouer un coup et de voir où est-ce qu'on a pêché ou pas. À quel moment on aurait pu faire autrement pour mettre le maximum de chances de gagner le coup. Et comme tu dis souvent, boule sur le long terme, en fait. C'est pas tant, là on a gagné, mais on a eu un peu de chance parce qu'il avait rien en face, il était un pampa, blablabla. Mais...
Et pour rebondir un peu sur le logiciel, il y a aussi, c'est aussi un logiciel qui est super intéressant parce qu'il y a plein d'autres options et plein d'autres fonctionnalités qui peuvent nous permettre d'améliorer les ranges aussi, de calculer les ranges automatiquement. Ça peut être bien selon si on joue en 6-max, en 8-max, en HU. C'est un très bon logiciel aussi pour ça et c'est surtout gratuit. Du coup, servez-vous-en.
Si par exemple votre bête noire c'est le HU, vous pouvez ne faire que des mains en HU.
Le HU reste la bête noire de beaucoup de joueurs, parce que finalement c'est le style de jeu qu'on joue moins. En étant joueur de tournoi, le HU c'est forcément le style de jeu qu'on va le moins
le
pratiquer.
Meilleur moment.
Ah oui, mais pour arriver en HU...
Et pour être sûr de ne pas louper le HU quand on y arrive, c'est bien de l'avoir travaillé un petit peu avant quand même.
C'est vrai que c'est pas un moment facile. Peut-être qu'on fera une main sur ça une prochaine fois, une main en HU.
Voilà. Ça va être compliqué, ça.
Ah bah. Ah, ça, si c'est contre Aurore, on est mort.
Le HU, moi, c'est ça.
Pourquoi tu dis
problème.
Ça, moi, je check.
Non. Toi, si tu vois une tête, t'envoies tout. Avec n'importe quelle blague. Non, mais le HU, c'est un sport à part, je pense. Faut aimer ou pas, mais c'est un sport.
Ouais, mais c'est indispensable. Si tu veux aller au bout d'un tournoi, c'est indispensable de savoir jouer à un HU et de bien jouer. Moi, combien de fois je me suis fait retourner en arrivant avec 80% des jetons en HU et je me fais retourner complètement en HU. Quoi.
Ah, moi, j'adore.
C'est vraiment un mode de jeu particulier qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Donc s'entraîner dessus, ça non, peut être que bien.
J'étais au Wizard, ouais, vraiment, tu peux travailler sur le flop, le pré-flop, le turn, ce que tu as envie en fait, donc c'est super bien.
Et on n'est pas obligé d'aller au bout des coups, on peut juste voir dans cette situation-là, à ce moment-là du jeu, on peut aussi travailler que les positions, être que en dealer, être que en UTG, et voir ce qu'ils nous préconisent.
Ça permet aussi d'analyser certains coups, vous pouvez avoir en live ou sur Internet, si vous vous demandez si vous avez bien joué ou pas, des fois ça peut être litigieux, est-ce que j'ai bien joué ce coup-là, est-ce que j'ai fait le bon montant, est-ce que j'ai fait la bonne mise. Ça peut vous aider à répondre aussi à vos questions.
Donc voilà, à creuser. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, de tester d'autres choses. Mais voilà, chez OTO Wizard qui nous a proposé ce Roi 9 exprès pour boule.
Merci, j'étais au Wizard.
Des tables. Et dans l'écho des tables ce soir, on vous propose un sujet un peu différent de d'habitude.
Ce soir, on va parler de poker, mais au cinéma.
J'adore le cinéma.
Cinéma.
Est-ce que vous connaissez un petit peu quelques films ouais, moi je connais.
Quand même.
Ah oui, non, mais...
Ça, c'était pour les anciens qui écoutent... comme
mais toi, t'avais encore des couches culottes à ce moment-là, comment tu fais
oui,
pour t'en souvenir ?
Mais j'écoutais déjà Chicha.
Du coup, est-ce que vous avez des souvenirs de films, vous avez pu voir des échanges de poker ou
bah, pas de poker, mais James Bond quand même, à Venise quand même.
Ah oui, carrément de voyage. Ouais.
Bah non, mais c'est James Bond qui arrive en bateau, hop, directement dans le casino à Venise quand même.
La classe. C'est au Venetia ou c'est à vraie Venise ?
Vraie Venise.
Au vrai Venise ? Ouais. J'ai pas regardé les James Bond, pourtant c'est de ma génération.
Nous y a joué. Savez, mais...
Casino municipal de Venise qui est sur les canaux.
La classe. Ben, pendant que tu es sur le James Bond, il y a le Casino Royal, bien sûr, qui parlait de poker. Avec la dernière main qu'on vous laissera voir si vous n'avez pas vu.
Voilà, vous pouvez retrouver la scène sur YouTube, hein, évidemment.
Bon, puis même aller voir le film directement, hein, disponible un peu partout.
Moi, j'ai un vieux souvenir. Ma mère, elle était fan de Mel Gibson à l'époque. Et du coup, dans Maverick, ils ont une vraie partie de poker à un moment donné. Enfin, c'est un joueur professionnel que joue Mel Gibson. Et ça lui attire beaucoup plus d'ennemis que d'amis.
L'image du poker, encore une fois.
Et on est dans une ambiance un peu saloon. Il est accompagné de Jodie Foster dans ce film. Et c'est sympa, il joue un poker fermé à 5 cartes, comme on ne joue plus maintenant à l'ancienne. Voilà. Et c'est très marrant. Ça, il promet de perdre pendant une heure avant d'essayer de rafler tout le monde.
Et du coup, il y a aussi Les Joueurs, un film de 98 avec Matt Damon et Edward Norton. Un peu de mal à le prononcer, celui-là.
Je le revois, ce film, parce que c'est vraiment deux acteurs fantastiques.
Vraiment excellent, ce film, où du coup, on a un jeune étudiant en droit, joueur de Texas Hold'em, qui un soir perd toutes ses économies pendant une partie face à un grand bandit de la mafia. Et du coup, il arrête de jouer aux cartes cette nuit-là, mais son meilleur ami, qui s'appelle Lastico dans le film, sort de prison et doit rembourser ses dettes. Et du coup, c'est l'occasion pour eux deux de se remettre en piste et d'aller affronter le fameux bandit de la mafia.
Ok, nice.
Et du coup, vraiment un film où vraiment on parle vraiment de poker et de techniques de poker dedans qui sont aussi intéressantes. Vraiment, ils ont poussé vraiment le film à aller vraiment dans les petits détails pour les joueurs de poker. C'est sympa.
Et ils font du Texas Hold'em, du coup ?
Ils font du Texas Hold'em, No Limit.
Nice. Il faut vraiment que je le regarde de nouveau.
Excellent.
C'est pas un film, mais il y a une scène, il y a une série que j'avais beaucoup aimée il y a quelques années, qui s'appelle Mentalist. Et dans un des épisodes, alors c'est l'épisode 7 de la saison 7, pour être précis, s'il y en a qui veulent retrouver la scène.
Je les connais tous par cœur.
Ah, j'ai retrouvé la scène sur YouTube parce que je savais qu'il y avait un épisode où ils jouaient au poker. Alors, il n'y en a d'ailleurs pas qu'un, mais qu'il y a aussi un épisode dans les saisons précédentes qui se passe dans un casino. Et du coup, il se fait un peu de bif comme ça et qui donne après à une serveuse en galère.
Classe.
Mais dans cet épisode-là, l'épisode 7 de la saison 7, ils font une petite partie. Ils sont 5, je crois, autour de la table. Et à un moment, il annonce que le tueur a un as en main. Et en fait, la partie, elle est filmée. Donc, dans une autre chambre, il y a son acolyte, Teresa Lisbonne, et d'autres flics qui sont en train de regarder les vidéos. Et le fait de dire le tueur a l'as en main, ben, tout le monde regarde. Et en fait, les quatre autres joueurs, donc, sauf lui, ont un as en main. Et ça a pu dévoiler un tells du tueur, en fait. Parce que finalement, ils se sont tous rendus compte qu'ils avaient un as en main, et puis on dit « Ah ouais, t'es pas du tout mentaliste, nanani », enfin, ils se moquent un peu de lui, etc. Et puis la partie continue. Mais en fait, en attendant, et ben, du coup, le tueur avait un peu dévoilé son tel à la police sans le savoir, ce qui va permettre par la suite, du coup, de pouvoir l'arrêter.
De résoudre le crime.
Absolument. Mais voilà, j'avais bien aimé cette petite scène.
Fred, des idées sur un peu sur le cinéma, des choses.
Non, j'avais regardé le film Les Joueurs là, puis Casino Royale aussi. Ouais,
c'est des classiques.
C'est des classiques. Après, les vieux films de cowboy où ça finit
Après, en bagarre de saloon.
En bagarre de saloon.
Après, il y a aussi deux films documentaires.
Las Vegas 21 aussi, qui est pas mal.
Documentaire, ouais, mais qui est plus tourné sur le blackjack.
Ouais, Las Vegas 21, c'est, je pense que c'est les joueurs, mais du blackjack. Ouais,
c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est mais très bon film aussi.
Beaucoup tourné sur la technique et tout, mais blackjack.
Du coup, ouais, il y avait un documentaire qui avait été fait, Nosebleed, ça s'appelait. Littéralement, des saignements de nez. Pourquoi ? Parce que il jouait des parties tellement importantes que ça pouvait provoquer des saignements de nez chez certains, tellement que les millions s'échangeaient aux tables. Et du coup, c'est un documentaire qui suit le parcours d'Alex Moon, Alexandre Luneau, et de Seb Sabik, Seb 86, qui étaient des joueurs sur Full Tilt à l'époque, et qui partaient du coup au WSOP à Vegas en 2014. Et du coup, ça suit toute leur aventure là-dessus.
Ok, intéressant.
Ouais, c'est sympa. Et il y a aussi un autre petit documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Bet Rise Fold. Voilà, on a les trois. Et juste pour finir, sur Prime Video, il y a aussi un documentaire qui s'appelle Grinders, qui est assez sympathique si vous avez l'occasion d'aller voir.
Ok, donc Grinders, Bet Rise Fold
et Nosebleed.
Nosebleed. Plus les classiques, du coup. Maverick,
joueurs. Après, je suis sûr qu'en cherchant un petit peu, on peut encore en trouver plein, des scènes de poker dans les films. Il doit y en avoir. C'est dans la culture américaine.
Absolument. Ben, c'était sympa, ce petit interlude ciné au poker après le Festival de Cannes. Là.
En plein Festival de Cannes. C'est peut-être fini. Je ne suis pas d'actualité cinéma.
Je ne suis pas non plus très à cheval sur les dates du festival. Je ne suis pas à fond, mais voilà, on sait qu'on est en période de festival, on va dire.
Attention, l'année prochaine, on montrera le tapis rouge grâce à l'émission.
Si seulement. Écoute, on va peut-être créer un film sur nous. Après un livre, un film. S'ils adaptent Coup de Poker en film, on ne sait pas.
Ça serait classe. Tu vois qui comme acteur?
Je vois bien Jay jouer son propre rôle.
Ouais.
Parce qu'il a une vraie prestance et tout.
C'est vrai. Par contre, pour remplacer Tom, quelqu'un, ouais, parce que quelqu'un qui a de la prestance.
Non, j'ai pas pensé jusqu'à ce point-là, mais ouais, c'est vrai que je m'étais dit, Jay, il ferait bien son propre rôle dans Coup de Poker. Bon, on rigole, mais il faut quand même faire attention quand on joue au poker.
On met pas son portefeuille à l'envers. On rappelle que le poker, c'est interdit au moins de 18 ans. Que vous soyez concerné directement ou indirectement par un problème de jeu excessif, n'hésitez pas à appeler Info Service, j'y arriverai jamais à le dire d'un coup celui-là. Hein.
Pourtant, on le dit à chaque fois.
Au 09 74 75 13 13, disponible 7 jours sur 7.
De 8h à 2h du matin.
Parfait, vous êtes au top.
Eh bien, merci beaucoup Fred de nous avoir accordé du temps en studio, d'être venu à Graphite pour notre émission, d'avoir partagé ton expérience avec nous.
Ben, merci de m'avoir reçu.
C'était chouette, on espère te recevoir de nouveau à l'automne.
Avec le titre de champion de France.
Allez, ramène la coupe à la maison.
Sans pression, mais un peu quand même, quoi, tu vois.
Ouais, bah écoute, on reviendra avec plaisir à cette occasion alors.
Ben, un grand plaisir.
C'est tout ce qu'on te souhaite. Bonne fin de week-end à tous nos auditeurs. Merci Boule, merci Tom pour votre bonne humeur.
Bonne soirée
à tous.
Au revoir.